Premier verset du chapitre 5. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. C'est la première mention chez Luc de la parole de Dieu en tant que parole de Dieu. Et en fait, ça nous interpelle, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la parole de Dieu, évidemment, alors déjà, c'est pas si évident que ça à définir, en fait, mais on va parler notamment de la parole qui est présente dans la Bible et qui se transmet, qui est une parole vivante, et notamment, on dit qu'on va écouter ou lire cette parole de Dieu. Bon, bref, pour nous, c'est quelque chose de défini. Or, la parole de Dieu, quand Luc l'utilise ici, en fait, ça vient plutôt révéler qu'il y a un début de vocabulaire qui va exister chez les premiers chrétiens. Cet usage-là est un usage a posteriori, pas du temps de Jésus lui-même, mais plutôt du temps des premiers chrétiens. C'est un vocabulaire spécifique aux chrétiens. Et donc, cette parole, c'est à la fois ici celle de Jésus, puisque c'est Jésus qui va parler, mais en même temps, c'est la parole qui est contenue dans les Écritures quand même. Donc on voit bien qu'il y a deux modes d'expression, la parole de Jésus, les Écritures, mais en même temps, il n'y a qu'une seule parole qui traverse les âges, qui transcende le temps, et c'est celle de Dieu. Et Jésus le fait où ? Il le fait au bord du lac de Génézareth. Et donc, le lac de Génézareth, il n'y a que Luc qui utilise ce terme-là. Tout le monde parle de la mer de Galilée. Et donc, si vous regardez hein, sur la carte que je vous avais donnée, donc vous voyez la Galilée, la Golanitide, eh bien, entre les deux, il y a la mer de Galilée. Donc, ça vous permet de repérer où se trouve Capharnaüm, dont on a parlé, parce que c'est là qu'il se trouve, et puis où se trouve Nazareth, dont il a aussi été question. Alors pourquoi est-ce que Luc parle du lac de Génézareth ? En tout cas, il parle d'un lac, là où les autres parlent toujours d'une mer. Est-ce que c'est parce qu'effectivement, c'est un homme plus instruit, et donc il fait la différence entre mer et lac ? Est-ce que... Ayant peut-être à un moment donné traversé la Méditerranée, il se rend compte qu'il y a une différence entre la mer Méditerranée et la mer de Galilée. Les hypothèses sont ouvertes. Toujours est-il que lui, il ne parle jamais de... Enfin, il ne parle pas. En tout cas, il ne parle pas de mer, mais il parle d'un lac. Ensuite, verset 3. Jésus s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Donc, au temps de Jésus, c'est une technique qui est bien connue, hein. On va se servir de l'écho comme d'un porte-voix. Donc on va utiliser l'eau. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent non plus pour cacher la voix. Mais toujours est-il que c'est une technique qui est connue. Et on voit quand même que ce n'est pas le seul endroit où Jésus monte dans une barque pour enseigner. Et Jésus, quand il enseigne assis. Parce que l'enseignement d'un maître se fait assis. On reverra hein, plus tard que la position assise, symboliquement, elle désigne celui qui juge, celui qui gouverne et celui qui enseigne. C'est pour ça que vous pouvez voir des fois encore dans la liturgie de l'Église des évêques qui font des homélies assis sur leur cathèdre. Parce que c'est la position de celui qui enseigne. On le voit quasiment plus chez nous, mais ça existe encore. C'est possible. J'ai vu une fois Monseigneur Santaine le faire, pour une ordination. Et maintenant, le terme qu'on va regarder, c'est au verset 5, « Simon lui répondit, maître. » Donc le terme maître. Il y a deux mots grecs qui sont utilisés pour dire maître par Luc. Le premier, c'est « épistates » et l'autre, c'est « didaskalos ». Ce qui nous intéresse, c'est que « épistates », on va toujours le retrouver... à une exception près. Mais sinon, on va toujours le retrouver sur la bouche des disciples. L'exception, c'est les 10 lépreux qui viendront demander à Jésus la guérison, et vous savez, il les envoie au temple. Il y en a un seul qui revient vers Jésus, et c'est le Samaritain. Donc c'est le seul moment où ce n'est pas des disciples en tant que tels qui l'ont sur l'élève, sinon c'est toujours des disciples. Et puis l'autre terme, didaskalos, lui, on va le retrouver sur toutes les lèvres, et donc notamment les lèvres des pharisiens. Quand les pharisiens vont s'adresser à Jésus en lui disant maître, en fait, ce n'est pas le même maître que celui des disciples. On n'a pas la différence en français, mais ou alors on pourrait essayer un truc avec un M majuscule et un M minuscule, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une différence entre les deux. Alors bien sûr, le terme hein, didaskalos lui va désigner quand même un maître qui est un maître reconnu, donc c'est pour ça que les pharisiens notamment vont l'utiliser, mais l'autre terme, épistates, lui, il va désigner une autorité singulière. Non seulement c'est reconnu, mais on adhère, quoi. Et donc au verset 5, Simon parle, et au verset 8, on n'a plus Simon, on a Simon-Pierre. On a un prénom composé. Et ça, c'est une petite manœuvre de notre évangéliste préféré, Luc, qui va vouloir marquer la conversion de Simon. On a déjà dit tout à l'heure, Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, et bien cette fois-ci, Simon devient Pierre. Jésus lui a, à ce moment-là, nous dans le texte, Jésus ne lui a pas encore donné le prénom de Pierre, mais il est connu par la communauté comme étant Pierre, parce que Jésus lui donne le nom de Pierre. Mais le moment de la conversion, donc le moment où il va entrer dans une nouvelle dimension de sa vie, où il suit le Christ, c'est ce moment-là. Donc Luc le marque par cette mention des deux prénoms, Simon-Pierre. Et enfin, au verset 10, Jésus dit à Simon, sois sans crainte. Et vous vous rappelez où est-ce qu'on a déjà vu sois sans crainte? À trois reprises. Trois fois dans la bouche. Deux fois dans la bouche de l'ange Gabriel, une fois dans la bouche des anges. Et donc c'était à chaque fois les messagers de Dieu qui utilisaient ces mots. Et là, c'est Jésus. Jésus lui-même dit, sois sans crainte. Donc, ce soit sans crainte, à chaque fois qu'on l'a vu, pour Zacharie, pour Marie, pour les bergers, il était de l'ordre d'une révélation. Et bien là, c'est la révélation qui, aux yeux de Pierre, est en train de s'accomplir, quoi. Il comprend. Et puis on voit dans ce passage, je vous avais dit au tout début le côté Luc qui fait son enquête historique, qui recueille des témoignages, etc. Et là, Luc, c'est pas du tout un pêcheur, enfin, c'est pas un homme de ce milieu-là. Et pourtant, on sait, enfin, en tout cas, je suis persuadé qu'il a fait son enquête. Pourquoi? Parce qu'il utilise quelque chose de très précis. Si vous regardez bien, c'est quelque chose que j'ai trouvé là en travaillant dessus, là, dernièrement, verset 7, ils firent signe à leurs compagnons. Et en fait, j'ai un petit peu cherché comment est-ce qu'on faisait pour pêcher à l'époque. Donc évidemment, c'est pas de la pêche à la ligne, mais on jette les filets et on les laisse tomber. Et quand il y a le poisson, il faut qu'il y ait une deuxième barque qui vienne, et donc on relève avec la deuxième barque. Et donc en fait, on tend un filet. Sauf qu'évidemment, si on appelle l'autre équipage, le poisson il part. Et donc le fait que Luc dise ils firent signe, c'est quasiment la marque, enfin pour moi c'est en tout cas la marque qu'il a observé et il a vu ça. Il a vu un petit peu ce rituel des pêcheurs. On tend le filet et quand c'est bon, on ne parle pas. On se fait signe. Et donc l'autre barque avance. On tire le filet, et donc tout ça se fait, j'imagine, dans un grand professionnalisme, avec beaucoup de savoir-faire. Et là, eux-mêmes, ils ont beau être dans ce savoir-faire-là, ils sont étonnés, ils sont surpris, ils sont même craintifs de ce qui leur arrive, et il est bien précisé que les deux barques enfoncent, donc tellement il y a de poissons. Bon, ce n'était pas une proposition de lecture en tant que telle, mais. Ça m'a réjoui quand j'ai eu ça, je me suis dit, tiens, ça c'est sympa. La proposition de lecture que je vais vous faire par rapport à ce passage-là, elle est sur Simon, Pierre et sa profession de foi. En général, quand on parle de la profession de foi de Pierre, on parle de quand Jésus dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais je crois qu'il y a là une véritable profession de foi. Parce que au verset 5, on l'a souligné, Simon va commencer par répondre d'une manière hésitante. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ». Donc autrement dit, c'est un pêcheur expérimenté, et il ne reconnaît pas en Jésus un autre pêcheur expérimenté, et il se dit qu'il sait quand même un petit peu quel est son métier. Donc il sait qu'on ne va pas aller pêcher en journée, on va plutôt, en tout cas pas en milieu de journée, parce que le poisson est très bas, donc il vaut mieux aller pêcher pendant la nuit, et c'est exactement ce qui se passe. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, donc on sait qu'ils ont été pêchés dans la nuit. Qui plus est, non seulement ce n'est pas le moment de pêcher, mais en plus, l'équipage est forcément fatigué, parce qu'il a travaillé dans la nuit, et en plus d'être fatigué, l'équipage est frustré, parce qu'il n'a rien pêché. Donc, Saint-Pierre, on voit à ce moment-là que c'est quand même aussi le bon patron, quoi. Il ne va pas renvoyer tout le monde au front comme ça, il prend soin de l'équipage. Il est frustré, il est fatigué, ce n'est pas le moment, donc on ne devrait pas y aller. Mais à cet homme expérimenté, qui sait que c'est contre-productif de jeter à nouveau les filets, il y a un autre homme qui vient, c'est l'homme de foi, le juif qui espère, qui a entendu l'enseignement de Jésus. Il ne faut pas oublier que 4 versets avant, on dit que Jésus est présent et il parle, il donne des enseignements. Il est question de la parole de Dieu que Luc souligne. Donc il a entendu les paroles. C'est un juif qui espère, c'est un juif qui a la foi. Et donc la foi prend le dessus. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Donc finalement, il y va. Et c'est là que Pierre voit et que Pierre croit. Il voit les filets qui sont pleins, là où c'était impossible. Il voit que les filets sont prêts à se déchirer. Et il voit que les barques sont prêtes à s'enfoncer tellement il y a de poissons. Donc on ne sait pas si c'est à terre ou si c'est dans la barque, parce que le texte ne le précise pas, mais sa réaction est explicite, quoi. Verset 8, « À cette vue, Simon-Pierre tombe aux genoux de Jésus. » Et on l'a rappelé tout à l'heure, se mettre à genoux devant quelqu'un, ce n'est pas possible. On ne se met à genoux que devant Dieu seul. Donc, vraiment, Pierre voit et Pierre croit. Et la parole qui suit, qui est la parole de Pierre, c'est une parole qui est éclairante sur sa conversion et sur sa compréhension de l'identité de Jésus. Comme dans l'Ancien Testament, il est prescrit de ne pas regarder le Seigneur face à face. On se rappelle de Moïse face au buisson ardent, on se rappelle de Isaïe aussi. Eh bien, Pierre, par respect, en fait, invite Jésus à s'éloigner pour ne pas être face à lui. C'est pas juste moi, pauvre pécheur, et ça. Non, il y a une vraie marque de respect. Il y a une reconnaissance de l'identité du Christ. Et la lumière du Christ fait la vérité. Parce que à ce moment-là, Pierre voit sa vie et il se déclare ouvertement pécheur. Donc d'abord, éloigne-toi de moi, Seigneur. Je reconnais que je ne peux pas te regarder face à face. Et je suis un homme pécheur. Et bien, c'est la première profession de foi de Pierre. Il reconnaît en Jésus le Messie, il reconnaît ensuite les propres limites de son humanité, donc il reconnaît qu'il doit tout attendre de la miséricorde divine. Et en fait, cette miséricorde de Dieu, et bien, elle est bien présente. Parce qu'à ce moment-là, Dieu, en la personne de Jésus-Christ, relève Pierre. Et pas simplement le relever physiquement. C'est-à-dire que Jésus va chercher ce qu'il y a de meilleur en Pierre. Vous vous souvenez peut-être dans le premier livre de Samuel, le roi David qui a péché, donc le grand péché du roi David, il s'enfonce dans son péché, il fait péché sur péché pour défendre son péché précédent, enfin bref. Et il est tellement enfoncé dans son péché qu'il n'est même pas capable de... le mot Dieu n'apparaît pas du chapitre 11. Et au chapitre 12, le prophète arrive et il va donner un cas pratique au roi David parce qu'il va s'appuyer sur ce qu'il y a de meilleur dans le roi David, à savoir sa capacité à rendre justice. Et là, en rendant justice, David va comprendre que c'est lui, en fait, qui a péché et que le cas pratique qui lui est apporté par le prophète n'a pour ce but que de lui faire reconnaître qu'il est pécheur. Donc, Dieu s'appuie à ce moment-là sur ce qu'il y a de meilleur dans le roi David, sa capacité à faire justice. Eh bien, ici, Dieu va révéler à Pierre ce qu'il y a de meilleur en lui et va s'appuyer dessus. Sa capacité à être notamment un meneur d'hommes. On l'a vu avec la question de son équipage juste avant. Eh bien, cette fois-ci, voilà, c'est un meneur d'hommes. Eh bien, désormais, il sera meneur d'hommes au service de Dieu et il ne sera pas simplement l'expérimenté pécheur qu'il était avant, il sera désormais le pécheur d'hommes. Ce qui en fait pour moi un très beau passage. Même touchant, en fait. On représente souvent, on a l'image de Pierre un peu bourru, un peu... En fait, là, on voit plutôt quelqu'un de très fin, d'attentif, de doux, délicat. Oui.